Oui, je crois que cela plaît justement à l'ennemi, qu'il puisse faire en sorte que beaucoup abandonnent la foi. Il essaye de toutes sortes de manières pour seulement essayer de faire en sorte que les croyants abandonnent la foi. Hier soir et jusqu'à ce matin, nous l'avons entendu toujours, nous avons entendu concernant la foi et de rester fidèle dans la foi et dans ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que aussi ce cantique, toujours de nouveau ici, l'exprime. Soyez fidèles, seulement fidèles. Suivez le Seigneur, toujours, de tout votre cœur, quoi qu'arrive. Peut-être que parfois, les choses sembleraient comme si plus rien n'arrive. Mais vous savez, pour toute chose, il y a un temps. Pour toute chose, il y a une heure. Et nous voyons que tout doit s'accomplir aussi dans les nations, parmi les nations, dans le peuple d'Israël et aussi dans l'Église épouse, en nous tous. Il faut que tout s'accomplisse. Et nous voyons que réellement cela est ainsi. Et je pense que ce Paul, ici, ne parle pas des incroyants, mais il parle des croyants. Car qui peut abandonner la foi? Des gens qui, une fois, ont cru, qui abandonnent donc la foi. Mais je pense qu'il y a assez de réflexions que cela nous donne de ce que nous puissions rester attachés à ce que Dieu, lui, nous a accordé. Parce que dans 1 Timothée 4, 1, il ne nous a pas donné des opinions humaines, des interprétations humaines, des ordonnances humaines, mais il nous a fait savoir sa volonté, révéler sa volonté, par sa grâce. Il nous a fait savoir ce qu'il veut faire. Et c'est peut-être raison que nous voulons ne pas être dans l'incrédulité, peut-être dans la lâcheté ou bien dans le délaissement, mais nous voulons être prêts, être brûlants, être plein d'amour quand le Seigneur apparaîtra, pour que nous soyons prêts d'aller avec lui dans sa gloire et dans sa maison, dans sa gloire. Ne vous laissez pas dérober la joie dans le Seigneur par personne, quoi qu'il arrive. Que les hommes parfois puissent avoir des bonnes intentions, mais ici il est écrit clairement, parce qu'ils se tourneront vers des esprits séducteurs et des doctrines qui viennent des démons. 1 Timothée 1, verset 4. Et chapitre 4, verset 1, pardon. Nous ne devons pas nous tourner vers ces interprétations. Ce sont des esprits séducteurs et des doctrines qui viennent de démons. Nous devons rester à la parole de Dieu. Si nous restons fondés dans la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais nous abandonner la foi. Abandonner la foi, ça suffit de se détourner vers des esprits séducteurs pour abandonner la foi. Que nous puissions rester attachés au Seigneur et avec joie ouvrir notre bouche et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et recevoir ce qu'il fait pour nous et pouvoir rendre grâce à Dieu pour ça. C'est sa volonté et c'est son désir que nous puissions être prêts pour son retour qui approche bientôt. Nous savons le temps, les temps sont passés et son retour est très proche. C'est peut-être raison que nous voulons saisir toutes les occasions pour nous rassembler tant qu'il est encore aujourd'hui. Nous ne savons pas si encore nous pourrons être ensemble dans une réunion, mais nous sommes heureux et reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons venir, encore nous réunir. Hier, j'ai parlé avec deux frères, ils ont dit que, et je disais, nous nous réjouissons de ce que vous êtes venus, et ils ont dit, nous sommes heureux de ce que nous pouvions venir, ou bien être ici. C'est quelque chose de merveilleux. Je pense que nous nous ressentons liés, nous nous sentons liés les uns avec les autres. Nous savons que ici, c'est notre maison, nous appartenons les uns aux autres. Seulement frères et sœurs, pas seulement pour ce temps sur cette terre, mais nous appartenons ensemble, nous sommes ensemble pour toute éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons apporter l'honneur à Dieu pour cela encore cet après-midi. Levons-nous pour ensemble lui demander sa bénédiction. Père Céleste, nous te remercions de la plénitude de nos cœurs, aussi pour cette heure de grâce que tu nous as accordée de nouveau par ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, de ce que cet après-midi nous pouvons de nouveau être ici pour ensemble écouter ta parole, pour recevoir ce que tu nous a préparé par ta grâce. Seigneur, nous t'apportons l'honneur, la louange et l'adoration et te demandons que tu puisses continuer à nous accorder ta grâce, à nous accorder, Seigneur, ta grâce pour parler, ta grâce pour écouter, Seigneur, ta grâce pour avoir des cœurs ouverts et un esprit humble, que tu puisses ôter tout ce qui ne vient pas de toi. Et accorde, Seigneur, ce qui est nécessaire. Je te demande, bénis mon frère, oins-le de la puissance d'en haut. Et nous tous, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, de ton bon Saint-Esprit. Sois avec nous, Seigneur. Ça, c'est notre prière et c'est notre désir. Encore cet après-midi, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Lui qui a sauvé ta vie de la force et qui te couronne de grâce et de miséricorde et qui te pardonne et qui pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies. Et que cela n'est pas un message merveilleux. C'est l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ qui nous réjouit, qui peut nous réjouir dans tout notre cœur, dans toute notre intérieur, dans n'importe quelle situation, dans toutes les difficultés. Il y a une chose qui reste valable, c'est-à-dire ce que Dieu a fait en nous. Cela n'a pas eu lieu à la surface. Cela n'a pas eu lieu, comme frère Branham le dit, d'un réveil seulement jusqu'à l'autre. Ce que Dieu a fait est fait pour l'éternité. Et c'est peut-être la raison que nous croyons que nous avons reçu la vie éternelle par la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement l'incrédulité qui peut nous précipiter dans la perdition, mais alors nous paralyser. Mais la foi est et demeure la victoire qui a triomphé du monde. Dans la foi, nous voyons déjà le psaume 24, verset 7 accompli, et verset 8, « Levez vos têtes, portes, ouvrez grand, portes anciennes, pour que le roi de gloire entre. » Qui est le roi de gloire? Yahvé, fort, Yahvé, héros de guerre. Il a vaincu, et avec la troupe des vainqueurs, il entrera dans la gloire. Alors aussi, toute l'armée céleste cessera de chanter, alors c'est à nous que ce sera de chanter le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse, selon Apocalypse 15. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je vais voir qui chantera plus fort que les autres. La troupe des vainqueurs sait ce qu'elle a à chanter. Les chérubins et les séraphins qui n'étaient jamais perdus ont déjà loué le Seigneur et continueront à le faire. Mais quand nous allons commencer à chanter, après toutes les douleurs de la terre, après toutes les détresses, quand nous allons arriver là-bas, quelle louange, quelle allégresse ce sera, quelle joie. Je vous dis, là-bas, moi aussi, je vais pouvoir chanter. Moi aussi. Là-bas, parfois, avec ma voix et de retenir la voix, etc., ce n'est pas facile. Mais là-bas, tout sera dans une telle harmonie. Tout se déroulera dans une telle harmonie. Et à toi et à moi, il sera permis de voir le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a fait grâce, qui nous a sauvés et qui vient à nous, qui est devenu semblable à nous, pour que, après la rançon du prix, après le prix précieux qui a été payé, nous irons à lui et nous serons semblables à lui. Nous pourrons être semblables à lui. Ça, ce n'est pas seulement une offre de Dieu. Ça, c'est une réalité divine. Jean écrit, il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, alors nous le serons semblables. Nous le serons semblables. Des hommes dont Frère Branham disait, nous habitons ici dans une maison de peste, notre corps terrestre. Quand on aura rendu notre dernier souffle, alors le corps sera livré à sa destination et ce qui reste n'est plus rien, n'est plus grande chose, cendre sur cendre et poussière sur poussière. Mais la chose importante, l'âme, ce qui s'est passé dans l'âme, c'est ce que nous prenons pour partir dans la gloire, ce que Dieu a fait dans notre âme. Et quand nous serons dans le corps de résurrection, alors de résurrection, alors nous ne nous souviendrons plus des circonstances passées, tout sera oublié. Tel que Dieu a jeté tout dans la mer de l'oubli, dans la mer de l'oubli, et irréprochable devant sa face nous tient, nous place par Golgotha. Et le prix fut assez cher, assez haut. Que personne puisse penser que c'est une grâce pas chère du tout que nous annonçons. Non, nous annonçons que le plus grand prix a été payé pour notre salut. Le plus grand prix. Et que le sang de l'agneau de Dieu sur la croix du calvaire à Golgotha fut répandu, coula, et que Dieu, par sa grâce, nous tourne sa face vers nous. Quand cela a eu lieu extérieurement, le soleil s'est retiré. Il y a eu un tremblement de terre, tout fut ébranlé, mais vu spirituellement, ce fut le plus grand triomphe. Et c'était le jour de la visitation divine de Dieu, alors que nous fûmes rachetés. Au moment où Golgotha vraiment nous est révélé dans la présence de Dieu, alors nous voyons une œuvre accomplie, achevée, mais pas seulement quelque part comme ça, loin de nous, mais nous nous voyons dans cette œuvre, inclus dans cette œuvre. Nous comprenons, comme cela nous est enseigné dans la Bible, dans les Écritures, que Dieu, en Christ, avant même la fondation du monde, nous a prédestinés et nous a élus. Et il a inscrit nos noms dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous reconnaissons que nous sommes crucifiés, morts, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Et que nous sommes transportés dans le monde céleste. Et ça aussi, ce n'est pas une histoire. Ça, c'est une réalité divine. Et seulement l'incrédulité et le doute peut nous ôter cette vue pour ce que Dieu a fait pour nous. Nous obscurcir cette vue ou bien alors même nous l'ôter. Et dans la parole d'introduction, cela a été exprimé, cela a été lu dans 1 Timothée chapitre 4. Une parole qui est très douloureuse. S'il y a déjà des hommes qui croient, même desquels il n'y en a pas beaucoup, la plupart ne croient pas. Mais quand ceux qui croient ensuite se détournent, abandonnent la foi, tombent. Alors que j'entendais cela, cette pensée m'est venue. Quand on passe devant un arbre qui est en train et que il est en train de mûrir, qu'est-ce qui tombe de l'arbre? Les fruits qui ont reçu des vers, ce sont ceux-là qui tombent. Les autres restent à l'arbre. Seulement là où il y a des vers à l'intérieur, ils tombent. Ces fruits-là tombent. Ensuite, ils sont rongés un peu comme ça de l'intérieur. Et alors, il n'y a plus qu'un plumps et ils sont au sol. Donc faisons attention que rien entre en nous. Dans notre cœur, dans nos pensées, pour ensuite nous ronger de l'intérieur et nous détruire. Qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur, qu'il y ait des grêlons, des tempêtes qui viennent sur nous, ce n'est pas grave. Mais soyons attentifs à ce que rien entre dans notre cœur, dans nos pensées, pour ensuite nous ronger et nous détruire de l'intérieur. Et l'ennemi est très malin. Il ne va pas seulement nous attaquer de l'extérieur. Il va aussi essayer d'entrer en nous. Alors que Dieu puisse nous accorder le bouclier de la foi et toute l'armure de Dieu pour que nous puissions reconnaître cette attaque. Partout. Et par tout ce qui se passe, soyons toujours attentifs à ce que rien entre dans notre cœur, trouve de la place dans notre cœur, dans nos pensées, qui pourrait nous ronger nous-mêmes et détruire les autres. Si déjà nous avons parlé de ce que Dieu a accompli ses promesses et nous a accordé un cœur nouveau et un esprit nouveau et qu'il nous a régénéré et nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Alors nous voulons conserver ce trésor divin dans un vase terrestre conservé et faire en sorte que rien, pas aucune racine d'amertume, d'animosité, rien contre qui que ce soit. Ces pensées-là que nous acceptons, que nous tolérons, font que pour nous ronger. De nature, personne ne peut surmonter toutes ces choses, nous ne sommes que des hommes. Mais par la grâce de Dieu, quoi qu'arrive, nous pouvons rester gardés sous le sang, sous la protection de Dieu. Nous restons gardés, quoi qu'arrive. Et même si dans l'Ancien Testament, il y a eu assez de choses qui ont été faites quand le sang des agneaux fut apporté et répandu et le sang fut appliqué sur les linteaux des portes, combien plus le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui-même s'est offert comme un agneau sans faute, parfait. Après votre présence, ce sang pourra nous garder et nous conserver intact jusqu'à son retour glorieux. Mais il s'agit vraiment de veiller avec l'aide de Dieu à ces choses. Et alors, justement, quand c'est justement quand on se doute de rien que l'ennemi nous surprend. Hein? Parfois, il y a des maladies, il y a des virus. C'est des maladies qu'on ne peut que voir à la loupe. Ça commence petit, très petit, minime. Mais un cancer commence, c'est un germe très petit que tu ne peux même pas voir avec tes yeux naturels. Mais quand il commence à ronger, alors qu'est-ce qu'apparaît? Qu'est-ce que ce petit germe invisible devient? Et parfois, c'est comme ça dans la vie des croyants. On pense, bon, c'est une petite chose, c'est pas grave. Mais de cette petite chose, alors, il y a quelque chose qui devient toujours plus grand. Et alors, nous ne l'avons plus sous notre contrôle. Alors, c'est là le problème qui nous contrôle et qui nous fait faire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, il y a une chose qui est certaine. Si nous ne surmontons pas ces choses, elles nous surmonteront. Il y a l'une des autres, l'une des deux aura lieu. Ou alors c'est nous, alors c'est ces choses-là que nous surmonterons. Nous n'avons pas seulement l'espérance, mais nous avons la foi et la certitude que Dieu gardera les élus. Et à cela aussi, nous nous comptons tous en raison de la réalité que le Seigneur avec nous parle comme un père parle à ses enfants. Dans un tel amour que chacun peut ressentir, n'est-ce pas? Doit ressentir, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'y a personne qui pourrait avoir l'impression que Dieu vient avec le marteau parmi nous. Non, nous voyons le Seigneur qui nous garnit la table. Nous voyons et nous vivons. Nous voyons celui qui nous parle et qui nous nourrit et qui nous conduit plus profondément dans sa parole et dans sa volonté. Je suis reconnaissant pour les témoignages qui déjà ont atteint mes oreilles de la réunion hier soir et de celle de ce matin. Oh, comme cela pénètre mon âme quand j'entends que la parole de Dieu a produit quelque chose en nous, a exécuté quelque chose en nous. Quelle profonde joie pénètre mon âme devant la face de Dieu. La parole du Seigneur ne revient pas à vide, sans effet, mais elle produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécute la volonté de Dieu en ceux qui croient. Mais et quand des frères et sœurs viennent et disent, frère Franck, la parole m'a touché, j'ai été béni, j'ai expérimenté et ressenti la présence du Seigneur. Le Seigneur était proche de nous. Oh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien pour mon âme. Ça fait du bien. Je ressens encore maintenant la présence de Dieu. Le Seigneur est ici. Il est présent. Il parle avec nous. Il nous bénit. Il veut nous former. Il veut nous préparer. Nous former. Il veut faire de nous quelque chose qui sert à la gloire de sa grâce, pas seulement après l'enlèvement. Cela va aussi venir, mais déjà maintenant, il veut le faire. Faire de nous quelque chose qui sert à la gloire de sa grâce. Il veut, avant l'enlèvement déjà, bénir son peuple et tous ceux qui ont été bénis de lui et qui ont été achevés et perfectionnés. Ensuite, il viendra les prendre avec lui dans la gloire. Il y a encore quelques écritures que je vais lire et ensuite, je vais me remettre à vos prières pour le voyage dans le monde entier, dans la moitié du monde, qu'on pourrait présenter dans toute l'Australie, la Nouvelle-Zélande, là-bas, de l'autre côté, aux États-Unis, par Los Angeles, par New York, et ensuite revenir. Et j'espère, et je crois que Dieu bénira. Et que ceux qui crient à lui, il leur apportera la réponse. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand des hommes sont déchirés à droite et à gauche. Un frère vient, il a cet enseignement, l'autre a un autre encore. Les gens sont déchirés à droite et à gauche par des interprétations, par toutes sortes de groupes. Ensuite, il y a des lettres et elles font que venir année après année. Et ensuite, cela m'atteint et quand, à chaque fois, et quand plusieurs fois, indépendamment, dans différentes lettres, il est écrit, « Frère Franck, viens s'il te plaît, nous savons que Dieu t'a établi. S'il n'y a rien dans une lettre qui me touche, alors là, cela me touche. Et je dis, Seigneur, je ne veux plus, mais je suis obligé. Je suis obligé. Et d'apporter la parole dans la pureté, dans la vérité et la clarté. Pas seulement l'apporter, mais la défendre. Je le fais sans attaquer un frère. Mon devoir n'est pas de blesser les autres. Mon devoir, c'est tout simplement d'annoncer le conseil du salut de Dieu, de l'exposer en accord total avec la parole et avec le message divin. Et louer soit le Seigneur. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que rien de plus n'a besoin d'être fait pour s'adapter. Ça s'adapte déjà depuis le commencement. Seulement si les choses sont assemblées correctement, alors elles s'adaptent parfaitement, tous. En fait, je voulais avoir changé le long voyage pour l'Inde en octobre, mais tel que cela semble, je vais devoir même après encore aller en Belgique, à Liège. Et ensuite, il y a l'Autriche, il y a Palermo, ensuite la Suisse et peut-être même Londres en décembre encore dans le programme. Et ça, je ne voulais pas tout cela, mais nous remettons entre les mains du Seigneur toutes choses. Se reposer, on pourra le faire dans la gloire. J'ai qu'une seule requête, pensez à moi dans vos prières. Puisque je vois notre sœur ici devant, je pense à l'Afrique du Sud. Il y a un frère qui m'appelle toutes les 2-3 semaines et il dit toujours la même question. Frère Franck, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Les frères au Zaïre m'en voudront parce que je ne peux pas venir. Mais Dieu sera avec eux. Et je vous demande, vous qui avez la possibilité ici, année par année, d'écouter des prédications, d'écouter la parole de Dieu, beaucoup écoutent seulement une ou deux prédications en 2-3 ans. Et nous écoutons ici les prédications depuis des années, année après année. Et c'est pour ça que nous voulons penser à ceux de manière particulière. Penser à eux dans nos prières particulièrement, qui ici et là sont déchirés par toute son interprétation. Ils ont besoin d'une réponse contraignante de la part de Dieu lui-même. Et je le dis avec un cœur humble. Je peux en tout temps leur donner cette réponse par les Écritures. Comme il est écrit dans Deutéronome, qui monterait au ciel? Je n'ai pas besoin de monter au ciel pour aller chercher cette réponse. Il est écrit, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Prononce-la seulement. Dieu nous a révélé sa parole. Sa volonté n'est pas au, n'est pas au ciel. Elle est dans sa parole que nous avons à notre disposition. Sa parole n'a été révélée pas au ciel, mais sur terre que nous avons à notre disposition. Et c'est en elle que sa volonté nous est révélée. C'est pour ça qu'il nous apprend à prier et dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis convaincu que si aujourd'hui, dans d'un commun accord dans la prière, nous cherchons la face de Dieu et nous oublions tout ce qui est autour de nous, la bénédiction de Dieu nous remplira. Elle viendra sur nous. Dieu est présent. Dieu est présent. Il est ici. Pas seulement dans la parole, pas seulement en parole, car le royaume de Dieu n'est pas constitué en parole seulement, mais dans la puissance et la démonstration et la preuve de la présence du Saint-Esprit. De Actes des Apôtres, seulement quelques paroles pour montrer que le Seigneur, aussi dans les jours d'autrefois, a ouvert les cœurs. Ça n'a pas d'importance que ce soit que c'était des individus ou bien alors plusieurs personnes. Il a toujours su qui est-ce qu'il envoie, quand est-ce qu'il le fait et qui doit être appelé. Ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 14. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. J'aimerais un peu rester encore ici un moment. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Un homme envoyé de Dieu avec les paroles de Dieu, et parce que c'était des paroles de Dieu et qu'elles ont été prononcées, la promesse avait été donnée à l'avance qu'il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. De telles paroles, je veux les prononcer. C'est de telles paroles que je veux apporter. C'est de telles paroles que nous voulons écouter. Des paroles de Dieu. Des paroles de Dieu qui saisissent des maisons entières, qui les sauvent, qui les délivrent, qui les conduisent au Seigneur et qui manifestent le salut de Dieu. Au verset 15, est écrit, comme je commençais à parler, le Saint-Esprit se répandit sur eux, comme il se répandit sur nous au commencement. Comme il se répandit sur nous au commencement. Il se répandit sur eux. Là où la même parole est prêchée, le même salut, la même délivrance, là le Saint-Esprit se répand comme au commencement. Et nous n'avons pas besoin de nous faire des imaginer, de nous imaginer quoi que ce soit. Comment est-ce que l'effet d'une fusion du Saint-Esprit devrait être et doit être? Tout cela vient de soi. Et ça vient toujours différemment. Comme ça ne viendra jamais comme nous l'imaginons. Mais ce qui est important, c'est que cela vienne. Que le Saint-Esprit se répande, puisse se répandre. Et que ce ne soit pas seulement de l'enthousiasme qui soit faite du haut de du podium ou bien de la chair, mais que le Saint-Esprit puisse se répandre. J'ose dire, nous aussi, dans ces jours, nous avons écouté des paroles qui nous sauvent, qui nous délivrent, qui nous conduisent à Dieu, qui nous révèlent son plan. Nous n'avons pas écouté des paroles d'hommes, nous avons écouté la parole de Dieu, réellement. Et nous pouvons croire et nous attendre à ce que le Saint-Esprit se répande sur tous ceux qui reçoivent la parole, ont reçu la parole dans leur cœur comme semence, et que toutes les si nous pouvions être délivrés de nos pensées éparpillées et distraites, et que nous soyons rassemblés réellement, consciemment, devant la face de Dieu, au nom du Seigneur, et que nous ayons un seul but aux yeux, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire dans cette heure dans laquelle nous sommes réunis et que nous puissions laisser tout le reste derrière nous et faire confiance au Seigneur que ici et aujourd'hui, il confirme sa parole, et c'est-à-dire à nous tous. Au verset 16, il est écrit, je me souviens alors de la parole du Seigneur, verset 16, acte 11, qui disait, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors c'est merveilleux, c'est beau de se souvenir de la parole du Seigneur quand elle s'accomplit, quand elle devient vraie. Oh, là, nous nous rappelons à ce que le prophète a dit, le prophète Joël, dans les derniers jours. Dieu dit, là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous nous souvenons de ça, de ce que le prophète a dit. Pierre pensait ici à cette parole, le jour la Pentecôte du prophète Joël, et il disait, ici s'accomplit ce que le prophète Joël a dit et ce qui était écrit. Pierre dit ici, je me souvins alors de la parole du Seigneur. Au moment où la parole de Dieu s'accomplit, nous nous souvenons avec reconnaissance des promesses qu'il avait données dans sa parole et qui ensuite, parmi nous et à nous, se sont accomplies. Alors nous avons les deux. Nous avons la promesse et nous avons l'expérience personnelle et nos cœurs peuvent alors être remplis et débordés de joie. Je me souviens alors de la parole du Seigneur qui disait, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint, baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, au verset 17, si donc Dieu leur a accordé le même don de la grâce qu'à nous qui sommes venus à la foi au Seigneur Jésus-Christ, comment aurais-je pu résister à Dieu? Non, nous ne sommes pas là pour résister à Dieu. Nous sommes là pour résister aux attaques du diable, effrayer le chemin au Seigneur et préparer le cœur du peuple de Dieu à rencontrer son Dieu et aller à sa rencontre, à être bien disposé. Ici, il est dit, si donc Dieu leur a accordé le même don de la grâce qu'à nous qui sommes venus à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une parole merveilleuse ici. Nous qui sommes venus à la vraie foi, qui sont parvenus à la vraie foi au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le droit de recevoir les mêmes bénédictions qui sont venues sur tous ceux qui étaient parvenus à la foi en Seigneur Jésus-Christ, aux mêmes bénédictions qui étaient venues sur l'Église primitive et de recevoir ce que nos frères et sœurs avaient reçu au commencement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lisons à partir du verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38. Sachez donc, frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est prêché. Et de toutes les choses dont vous ne pouviez obtenir la justification par la loi de Moïse, c'est en lui qu'est justifié quiconque croit. Tout ce qui n'était pas possible par la loi, parce que ça avait été donné pour la condamnation et pour nous placer coupables devant Dieu, c'est devenu possible par la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce qui n'était pas possible par la loi de Moïse et ne pouvait pas être atteint par la loi de Moïse est accordé à chacun la pleine justification à celui qui croit. Le reste, je ne vais pas continuer à le dire parce que cela ne s'ajuste pas à nous. Au chapitre 14, verset 2, maintenant. Mais parmi les Juifs, ceux qui restaient incrédules incitaient la population païenne à l'amertume contre les frères. Paul et Barnabas restèrent néanmoins quelque temps dans cette ville, prêchant librement avec confiance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en opérant par leurs mains des signes et des prodiges. Les apôtres ne se sont pas laissés intimider, n'ont pas regardé et n'ont pas considéré qu'une partie de la population avait été incité contre eux à l'amertume. Ils n'avaient qu'un seul devoir, c'est de servir Dieu et de prêcher sa parole. Et leur fidélité a été récompensée en ce que Dieu a confirmé sa parole. Ici, il est dit, prêchant librement avec confiance dans le Seigneur, nous aussi, nous mettons notre confiance seulement dans le Seigneur. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas être confus. Et il prêchait librement avec confiance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en opérant par leurs mains des signes et des prodiges. C'est lui qui opérait par leurs mains des signes et des prodiges. Comme souvent nous le disions, quand le Seigneur, si le Seigneur maintenant veut parler, il a besoin d'une bouche pour parler par cette bouche, pour pouvoir parler par cette bouche. La parole est écrite, mais il faut qu'elle soit vivante, qu'elle soit révélée. Il faut que les contextes soient révélés, soient joints, et qu'on a des écritures en écriture. Et quand Dieu veut bénir, il peut aussi utiliser des mains. Les mains de ceux qui ont mis leur confiance en lui, qui mettent leur confiance en lui, c'est peut-être raison que, n'est-ce pas, la parole qui est prêchée, il la confirma, il la confirmera encore aujourd'hui dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. La parole du Seigneur ne revient pas à vide. Elle est confirmée par Dieu, elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. De Actes des Apôtres, le chapitre 14, je lis le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 26. De là, ils s'embarquèrent sur un navire pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant heureusement accomplie. Après leur arrivée, au verset 17, Actes apôtres 14, après leur arrivée, ils convoquèrent une réunion de l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait accompli par leur intermédiaire, notamment qu'il avait ouvert la porte de la foi aux païens. Jusqu'ici est écrit encore le mot accompli par un ministère. Donc, que Dieu avait accompli par leur intermédiaire en relation avec un ministère. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela devrait nous toucher. Dieu confirme sa parole. Dieu bénit. Dieu secourt. Dieu se tient sur chaque parole qu'il a faite. Chaque parole qu'il a donnée, et il est prêt à accomplir chaque promesse et à nous accorder ce qu'il a promis. Après cela, avant cela, il est décrit au verset 24, après avoir traversé la Pisidie, ils arrivèrent en Pamphylie où ils prêchaient encore la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalia et Dieu confirmait sa parole. Ils n'ont pas pensé à quoi que ce soit en le faisant. Ils ont convoqué une réunion de l'Église et ils ont raconté ce que Dieu a fait par eux. Mes bien-aimés, nous avons jusqu'à maintenant fait cela en comme un mot-clé. Mais nous pourrons, nous avons donné des titres, mais nous pourrons raconter ce que Dieu a fait dans notre génération, dans notre temps. Ce qu'il l'a fait dans les pays, dans les villes, dans les églises et dans des individus dans ce temps. Nous pourrons aussi raconter ce que Dieu a fait par sa grâce. Au chapitre 15, nous lisons encore quelques versets à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a lui-même rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Ce texte m'a beaucoup touché, particulièrement cette pensée. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux. D'un côté, les croyants des Juifs, les croyants juifs, et ensuite les païens de parmi les croyants de parmi les nations et les croyants de parmi les Juifs. Et Dieu ensuite a fait aucune distinction. Cette distinction me touche, cette constatation me touche. Bien au contraire, ils ont reçu la même parole, écouté la même parole, ils ont fait les mêmes expériences, ils ont pu faire les mêmes expériences avec Dieu. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu devrait faire une distinction avec nous? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans toutes nos Bibles qu'il n'y a pas d'exception de personne aux yeux de Dieu? Dieu fait aucune distinction. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la même chose qui était là pour l'Église au commencement est à la fin aussi là pour elle. Ça, c'est le rétablissement au sens même du mot. La restauration, ça, c'est quand l'Église est ramené dans son état voulu de Dieu, l'état originel voulu de Dieu. Et ça, c'est le centre du message. Je vous enverrai le prophète Élie qui rétablira toutes choses dans l'état primitif. Ça, en fait, c'est la promesse que le Seigneur a donnée après le ministère de Jean-Baptiste. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, et c'est connu de nous tous, c'est le verset 11. Matthieu, chapitre 17, verset 11. Matthieu 17, verset 11. Il leur dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et Élie va venir et remettra toutes choses en ordre, rétablira toutes choses dans le futur. En relation à Jean-Baptiste, vous pouvez dire que Élie est déjà venu, car Jean vint dans la puissance et l'esprit d'Élie. Mais ici, le Seigneur parle avec toute la clarté pour le futur, en montrant dans le futur, et il dit que Élie doit venir et rétablir toutes choses et remettre tout en ordre. Si quelqu'un croit que frère Branham a été envoyé par Dieu, alors qu'il puisse aussi croire que ce n'est pas les prédications que l'ordre divin devait être rétabli dans cet ordre, et celui qui ne se soumet pas à cet ordre divin, qu'il puisse se laisser dire, qu'il puisse permettre qu'on lui dise qu'il n'appartient pas à ce plan de Dieu. Dieu ne va pas faire d'exception, car auprès de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Alors que la bouche du Seigneur avait prononcé cela comme dans les jours, alors que les prophètes et les apôtres l'avaient écrit, cette promesse du prophète Élie. Et que font beaucoup avec cette parole qui les concerne, mais qui ne veulent pas accepter? Elle n'est plus valable pour eux. Nous voulons faire attention que nous ne puissions pas nous élever au-dessus d'une parole, mais nous soumettre à chaque parole, nous pouvoir nous soumettre à chaque parole, et cela très profondément et de tout notre cœur, avec un cœur reconnaissant que Dieu parle encore avec nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, si Dieu n'avait pas des intentions avec nous, un plan avec nous, il laisserait marcher comme nous voulons et ne se donnerait pas l'effort de parler avec nous d'une telle manière en insistant. Non, Dieu a des pensées de paix avec nous et il veut rétablir toutes choses dans l'état primitif et remettre tout en ordre. Et dans ce contexte-là, Actes des Apôtres 3, versets 20 et 21, en relation avec notre Seigneur et notre Sauveur, il est écrit ici, « Ceci cependant, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. » Il y en a qui s'étonnent. Pourquoi est-ce que frère Branham, parfois, n'est-ce pas, a utilisé l'Ancien Testament? C'est toujours le même Dieu qui parle. Est-ce qu'il a corrigé un verset ou bien repris un verset? Non, c'est la sainte bouche de l'Éternel qui a parlé. Et heureux l'homme qui peut accepter toute la parole de Dieu comme parole de Dieu, comme contraignante et correctrice. Donc, pour nous ramener, pour nous corriger. Ici, nous avons la confirmation divine, comme nous l'avons déjà cité, d'Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a lui-même rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Il n'a fait aucune distinction entre ceux qui, au commencement, avaient cru et qui plus tard se sont ajoutés. Il n'a fait aucune distinction. C'est resté et ça reste jusqu'à aujourd'hui encore la même parole, les mêmes expériences, le même Saint-Esprit qui plane sur l'Église, qui se répand, qui veut nous remplir pour que nous puissions déborder. Toujours là où la parole a été prêchée, c'est là que l'Esprit de Dieu s'est répandu. Est-ce qu'aujourd'hui ça devrait être différent? Non, nous ressentons que l'Esprit de Dieu est sur nous, mais il veut établir sa demeure en nous pour que ça puisse jaillir comme une source, selon la parole de l'Écriture. Quand l'Esprit sera venu sur vous, alors en vous, il créera une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Jésus disait, « Je suis venu pour qu'ils puissent avoir la vie et l'avoir en abondance. » Et je crois que cela est vrai. Je crois que c'est sa volonté. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Et il veut que nous ayons la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit dans cette vie éternelle. Autrefois, il n'a pas fait de distinction. Et aujourd'hui, il ne fait non plus aucune distinction. Si les hommes peuvent témoigner qu'ils ont cru depuis 20 ans, 30 ans et que l'Esprit de Dieu vint sur eux, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne devrions pas aussi expérimenter la même chose? Dieu ne change pas sa parole, ne change pas ses pensées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Oh, s'il pouvait nous pénétrer avec son Esprit, avec sa parole, avec son Esprit, et que quelque chose en nous, une source, jaillisse, qui jaillisse jusqu'à auprès de lui et lui accorde et lui rende gloire. Encore une parole qui rend témoignage que parmi ceux qui écoutaient, il y avait une femme à qui le Seigneur avait ouvert le cœur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Acte 16, verset 14. Parmi ceux qui écoutaient, il y avait une femme pieuse nommée Lydia et nommée Lydie marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle prête attention aux paroles de Paul. Qu'est-ce que c'était? Dieu avait fait grâce. Parmi ceux qui écoutaient, il y avait une femme pieuse. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle prête attention aux paroles de Paul. Et comme nous pouvons le lire plus tard, et tel qu'elle-même disait plus tard ici, au verset 15, « Si vous avez vraiment reconnu en moi une disciple fidèle du Seigneur, venez dans ma maison et habitez chez moi. » Quelle œuvre de Dieu! Une femme païenne. Non, 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 elle était juive. Ah, j'ai pas lu. J'avais pas eu le temps, je m'excuse. Ça n'a pas d'importance. Une femme écoute la parole du Seigneur et reçoit la parole, accepte la parole qu'elle écoute, croit. Et tout de suite, elle invite les serviteurs de Dieu et dit, « Si vous avez vraiment reconnu en moi une disciple fidèle du Seigneur, venez dans ma maison et habitez chez moi. » Le Seigneur veut faire de nous des disciples qui sont fidèles et qui invitent sans qu'il y ait du trouble, mais qu'il y ait une bénédiction. Oh, nous aspirons à ce jour où chaque visite dans une maison est une bénédiction où la présence de Dieu peut être avec nous et la paix et la grâce de Dieu puisse nous accompagner, que nous laissions des traces de bénédiction. Ici, en un seul coup, Dieu a fait une œuvre merveilleuse, profonde. Il lui a ouvert le cœur et le même Seigneur a ouvert ton cœur et mon cœur pour sa parole. Et nous avons cru la prédication qui nous a été adressée. Et nous n'avons pas honte de rendre témoignage que Dieu a utilisé un Paul et un frère Branham pour nous instruire, pour nous informer des choses divines. Mais tout l'honneur et la gloire appartiennent à celui à qui elle appartient, c'est-à-dire à notre Dieu seul, et cela d'éternité en éternité. Cela m'a beaucoup touché quand je pense comme Dieu est fidèle et comment est-ce qu'il est plein d'amour et qu'il parle plein d'amour avec nous. J'ose dire que chacun qui ouvre son cœur a compris le langage de Dieu et après peut aussi le parler. Vous savez, quand on apprend une langue, on comprend mieux quand on comprend mieux la langue que qu'on pourrait la parler nous-mêmes. Mais ici, ça devrait aller main dans la main. Nos paroles devraient être comme des oracles de Dieu. On ne devrait pas seulement l'écouter, mais aussi nous devons et nous pouvons le comprendre. Et nous pouvons aussi dire ce qu'il a dit. Ça n'a pas d'importance dans quelle langue que nos paroles soient la parole de Dieu. Les croyants parlent le langage de Dieu. Alléluia! Une parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Et qu'ils puissent, dans la langue terrestre, ne pas pouvoir se faire comprendre ou bien alors parler. Mais la compréhension qu'ils reçoivent par le Saint-Esprit dans leur cœur est là. Parce que ils parlent le même langage spirituel et la même parole de notre Dieu. Ils la croient. Je peux seulement que dire que le Dieu fidèle puisse nous faire grâce à tous en nous visitant puissamment pour que nous puissions nous aussi dire. Nous nous rappelons des paroles qu'il nous a adressées quand nous les voyons parmi nous dans leur accomplissement par la grâce de Dieu. et que nous pouvons personnellement les expérimenter. Que le Dieu Tout-Puissant, qui au commencement n'a pas fait de distinction entre ceux des païens et les premiers, dans Actes chapitre 2, que le même Seigneur, lui qui pouvait dire « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, tel que j'étais au commencement, c'est ainsi que je suis aussi au commencement. Je ne fais aucune distinction. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne fais aucune distinction. » Notre Seigneur peut aujourd'hui faire la même chose, car nous aussi, nous avons écouté la même parole. Et l'Esprit de Dieu vient sur ceux qui ont écouté sa parole et l'ont reçue. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si nous voulons venir devant. Levez-vous comme vous vous sentez. Soyez libre si vous voulez venir devant, vous pouvez venir. Ce qui est important, c'est que nous puissions adorer d'un commun accord. Levons-nous pour le faire. Oh, Dieu fidèle, encore une fois, je te remercie avec un cœur prosterné, mais avec une profonde reconnaissance pour le grand privilège que tu nous as accordé dans ce monde tordu et perverti et confondu. Tu nous as fait grâce de te suivre, de t'accepter, de te recevoir. Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Oui, nous avons la révélation. Nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de ce que jusqu'à ce jour, tu m'as conservé, tu m'as porté. Je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Et nous te remettons ces jours qui nous restent encore, ces mois ou bien ces années. Quoi que ce soit, Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Oh Dieu, tu nous as accordé la vie et nous te la portons de nouveau. Nous te la consacrons. Agrée-nous, accueille-nous et utilise-nous comme tu le veux, selon ton conseil et selon ta volonté. Seigneur fidèle, nous nous tenons à ta disposition. Que tu puisses nous équiper et nous conduire dans ton chemin, selon ta volonté. Alléluia. Maître, Saint Maître, que je puisse vivre la préparation de la troupe rachetée par le sang, le peuple avec lequel tu as fait l'alliance au sacrifice de Golgotha. Oh, bien-aimé Seigneur, le fruit de l'angoisse de ton âme. Oh, Sauveur, tu auras une église épouse, car tu es l'époux de nos âmes. Et à la fin, nous pourrons regarder en arrière et dire, tout s'est accompli, tout ce que le Seigneur a dit s'est accompli. C'est accompli, tout ce que Dieu a promis est arrivé, c'est accompli. Alléluia, honneur et gloire soient apportés à ton saint nom. En ton saint nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.